France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité.
Margot Delpierre.
Bonjour à tous. Le gouvernement doit annoncer aujourd'hui un programme et le calendrier des concertations sur la réforme des retraites. Les discussions sont pour le moment interrompues, elles reprendront en janvier. Malgré la trêve souhaitée par le président Emmanuel Macron, les perturbations continuent dans les transports, à l'appel notamment de la CGT Cheminots et de Sudrail. La SNCF prévoit de faire circuler 40% des TGV, 40% aussi des TER en partie par autocar. À Paris, 6 lignes de métro sont fermées, précise la RATP. Le gouvernement exclut de revenir sur la suppression des régimes spéciaux. Il prévoit d'instaurer un régime universel par points. Nous y reviendrons plus longuement dans le journal de 6h30. Un appel à la solidarité internationale sera lancé lors du sommet de Pau le 13 janvier pour que le Sahel et la France ne soient pas seuls dans ce combat contre le djihadisme, a expliqué hier le président nigérien Mahamadou Issoufou, aux côtés de son homologue Emmanuel Macron, venu rendre hommage aux 71 soldats nigériens tués au début du mois. Seront présents à Pau les dirigeants des pays du G5 Sahel. Le mouvement de contestation se durcit en Irak. Les manifestants refusent d'avoir pour Premier ministre l'ancien ministre de l'enseignement supérieur, présenté comme le candidat de Téhéran. Pour la troisième fois, le délai légal pour nommer un nouveau Premier ministre a été dépassé. Depuis le début des manifestations, le 1er octobre, 460 personnes sont mortes et 25 000 blessées. Le naufrage d'une barge menace l'environnement aux Galapagos, au large de l'Équateur. Elle contenait plus de 2000 litres de diesel. L'archipel est inscrit au patrimoine naturel de l'humanité. L'accident est survenu dans un port de l'île San Cristobal. Les autorités ont mis en place des barrières de contention et des chiffons absorbants pour tenter de réduire les dégâts.
10 minutes par semaine pour comprendre un échec. Guillaume Herner.
Super Fail, le magazine de l'erreur, parce que l'on a toujours au moins une bonne raison de se planter. Un échec analysé chaque semaine, Super Fail, c'est à podcaster tous les lundis, sauf si ça plante.
Super Fail, Guillaume Herner, en podcast et en podcast seulement sur franceculture.fr. Il cherche en écrivant une consolation qui rende le monde plus habitable. Avocat, romancier, essayiste, François Sureau, à voix nue sur France Culture au fil de 5 entretiens.
L'alchimie qui conduit un avocat à être ou non efficace me reste encore mystérieuse. Je crois qu'en fait, elle reste mystérieuse pour la plupart de mes confrères.
Engagé en faveur des libertés publiques et des demandeurs d'asile, son parcours, ses chocs littéraires, ses combats, ses engagements, François Sureau, à voix nue, de lundi à vendredi à 20h et sur franceculture.fr.
Tout de suite, le réveil culturel de Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le réveil culturel. Toute cette semaine, sur France Culture, nous allons célébrer les esprits rebelles. Et pour commencer, dans le réveil culturel, on va évoquer Bruce Lee. Le 20 juillet 1973, Bruce Lee nous quittait à l'âge de 32 ans. Et pourtant, 46 ans plus tard, le petit dragon est toujours dans nos esprits. Très présent en tout cas dans l'esprit des jeunes manifestants contre le régime chinois de Hong Kong. Présent également dans l'esprit de nos écrivains et journalistes. Par exemple, Adrien Gombeau, notre invité ce matin. Bonjour Adrien Gombeau.
Bonjour Toufik.
Qui vient de te faire paraître chez Capricci un livre autour de Bruce Lee intitulé « Un gladiateur chinois ».
Le réveil culturel. Lundi, livre.
Thank you. Adrien Gombeau, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi des jeunes qui n'en sont doute pas connus la période de Bruce Lee se réclament de lui quand il manifeste à Hong Kong ?
Oui, c'était très fascinant pour moi parce que j'étais à Hong Kong hein, quand les manifestations ont commencé, pour terminer ce livre précisément. Et tout à coup, je vois des millions de gens en train de parler de Bruce Lee dans des manifestations, des gens qui en plus, pour la plupart, sont nés bien après la mort de Bruce Lee. Je pense que pour les Chinois, Bruce Lee est un symbole chinois. Mais pour les Hongkongais, Bruce Lee est vraiment un symbole de l'identité hongkongaise. C'est quelqu'un qui est né aux États-Unis, mais qui, très jeune, avant même d'avoir un an, est retourné à Hong Kong, qui a tenté une carrière américaine qui n'a pas marché, et qui finalement a fait carrière, enfin a décollé vraiment à Hong Kong. Donc c'est un pur produit des studios de Hong Kong. Et je pense que face à ce géant chinois, tout à coup Bruce Lee est devenu pour ces jeunes un père spirituel. Par ailleurs, il avait dans des textes et dans des interviews célèbres dit des phrases sur les techniques de combat, ce qui était assez amusant à reprendre. Et je crois qu'il est devenu, oui, un drapeau de Hong Kong pour ces jeunes au début de ce mouvement.
Est-ce qu'on peut le considérer comme un esprit rebelle, Bruce Lee ?
Ah, je pense que oui.
Il est coriace, on l'apprend en lisant votre livre, mais vous dites, Adrien Gombeau, qu'il était aussi, par ailleurs, un esprit rebelle.
Oui, je pense qu'il a eu plusieurs périodes dans sa vie. Il a été rebelle très jeune, mais au sens un peu idiot du terme, hein. C'est-à-dire c'était vraiment, on peut dire, un petit con qui harcelait ses camarades de classe. Et donc il y avait ce côté rebelle, mais au sens très commun du terme. Et puis je pense plus profondément qu'il a été rebelle dans son art même, c'est-à-dire dans les arts martiaux. C'est quelqu'un qui a créé sa propre école, refusé le carcan des écoles toutes faites, et inventé quelque chose de nouveau, contre l'ordre établi. Et si on regarde ses films, Bruce Lee régulièrement se bat contre des gens plus âgés et défait des gens plus âgés. Et donc c'est le triomphe de la jeunesse, de l'invention, contre l'ordre établi. En cela, il est vraiment rebelle, oui.
Et vous avez choisi pour votre ouvrage consacré à la brève carrière et vie de Bruce Lee, ce titre, Adrien Gombeau, un gladiateur chinois.
Oui, absolument. Mais ça, c'est une référence à la fureur du dragon et sans doute à son combat le plus célèbre où il se bat contre Chuck Norris dans le Colisée de Rome, qui est le lieu des gladiateurs. Et je pense que c'était pas par hasard qu'il avait chorégraphié ce qui est peut-être son plus beau combat dans une arène romaine. C'est-à-dire que c'est un Chinois qui va se battre sur l'arène occidentale même et triompher de l'Occident dans l'arène occidentale. Donc pour moi, oui, c'était un gladiateur, mais un gladiateur chinois.
S'il fallait parler de l'acteur Bruce Lee,
oui.
Est-ce que c'est un bon acteur ?
Je ne sais pas si la question se pose véritablement. Au départ, il est vraiment acteur, c'est-à-dire que très jeune, il fait plusieurs films à Hong Kong. Il devient une sorte de star enfant, et il est pas mal du tout dans ses rôles d'enfant. Et puis il disparaît, il part aux États-Unis, où là, il va mener une vie d'étudiant, il va être aussi serveur dans un restaurant, enfin, un récit de diaspora somme toute classique. Et quand il revient au cinéma, là, il devient une star des arts martiaux. Et bizarrement, il est moins bon comme acteur quand il devient excellent comme artiste martial.
Comment l'expliquer, Adrien Gombeau ?
Je crois qu'il s'est concentré entièrement sur les arts martiaux. Et puis, quand on regarde bien ses films, le fait qu'il ne soit pas un excellent comédien dans l'expression des émotions le rend encore plus fort dans les émotions qu'il exprime à travers les arts martiaux. C'est-à-dire que je pense que son mode d'expression, soudain, devient l'art martial. Quand il ne se bat pas, il est un peu timide, un peu réservé, et soudain, il devient une bête, vraiment. Il enlève ses vêtements, il affiche sa musculature, et là, il prend toute la dimension de son mythe. Donc, la contradiction entre ses limites d'acteur et sa puissance martiale rend ce personnage incroyablement présent à l'écran.
Adrien Gombeau, est-ce qu'on peut dire que les films de Bruce Lee sont des films entièrement de lui ? Est-ce qu'il est tout à la fois auteur, réalisateur ? Est-ce qu'il a dirigé toutes les scènes d'action ? Est-ce que ce sont ses œuvres à lui ?
Pour les films d'arts martiaux, je crois que c'est ce qu'il a cherché à faire en tout cas. C'est-à-dire que puisqu'il est un rebelle, puisqu'il va combattre l'ordre établi, les réalisateurs qui sont des réalisateurs de studio ne peuvent pas aller dans son sens. Ils sont formés à faire autre chose. Et donc, au départ, il n'a pas cette puissance, cette assise qui lui permet de prendre le contrôle de ses films. Et je pense que Big Boss, qui est son premier grand film d'arts martiaux, l'a un peu déçu. Même si c'est un film qui l'a porté vers la gloire, il voyait bien que c'était pas tout à fait ce qu'il voulait faire. Et il n'arrivait pas à communiquer avec les anciens, avec les patrons de studio, avec les réalisateurs, le désir d'arts martiaux qu'il avait. Et c'est quand il a pu devenir une star qu'il a pris le contrôle du scénario, de la production et de la réalisation et fait vraiment un cinéma dont il avait envie.
Alors, je vous pose cette question, Adrien Gombeau, parce que vous le savez, cet été, l'été dernier, on a tous vu ce très attendu film de Quentin Tarantino et dans un passage, il se moque un peu de Bruce Lee, quoi.
Oui, alors ça, c'est une partie de la vie de Bruce Lee où donc il est à Hollywood.
Ouais.
Et il tente à ce moment-là de sa carrière de percer dans le cinéma américain. Et tout ce qu'il a obtenu, c'est un rôle dans une série qui s'appelle Le Frelon Vert. Et donc Tarantino reproduit le décor avec la voiture du Frelon Vert. Et c'est un rôle un peu ingrat puisqu'il est le garde du corps du héros. Et donc le héros résout les enquêtes et lui, il est censé faire toutes les scènes d'action qui sont pas du tout à la hauteur des possibilités de Bruce Lee. Et Tarantino décrit ce moment où Bruce Lee est extrêmement frustré de ne pas percer dans le cinéma américain de façon effectivement humoristique.
Donc c'est plutôt basé sur du réel, quoi, sur des faits que l'historien que vous êtes, Adrien Gombeau, ne rejette pas.
Non, mais factuellement, oui, effectivement, Bruce Lee, à ce moment-là, tente de percer dans cette série. Après, est-ce qu'il ressemblait vraiment au personnage grotesque que dépeint Tarantino? Je ne pense pas.
En tout cas, ça a créé des remous. Hein, oui, seulement que l'on puisse dire. Hein,
oui, mais c'est bien.
Des millions de fans de Bruce Lee qui n'ont pas apprécié le film de Tarantino à cause de cette petite scène où il représente Bruce Lee.
Oui, ça montre bien l'amour que les gens portent à Bruce Lee, puisque après tout, Bruce Lee est effectivement ridicule dans ce film. Tarantino se moque aussi de Steve McQueen. J'ai l'impression que tous les personnages réels dans le film de Tarantino sont un peu grotesques. Mais Bruce Lee, il est intouchable. Et je pense qu'aussi, il y avait une vraie cruauté quand même, et peut-être que Tarantino s'en est pas aperçu, de se moquer de Bruce Lee, qui faisait tellement d'efforts pour y arriver, et qui, parce qu'il était chinois, devait travailler 3 fois plus que les autres, en étant payé 3 fois moins, pour un résultat qu'il n'arrivait pas à atteindre. Donc il y avait une vraie douleur quand même dans le Bruce Lee de cette époque, que Tarantino n'a pas représenté.
Sur France Culture, ce matin, dans le Réveil culturel, on parle d'un esprit rebelle connu de tous et de toutes, même les jeunes. Bruce Lee, un gladiateur chinois, c'est le titre de l'ouvrage de mon invité ce matin, Adrien Gombeau. C'est édité chez Capricci, là c'est bien sûr la musique de John Barry que vous avez reconnu. Adrien Gombeau, dans un film culte de Bruce Lee, Le jeu de la mort.
Oui, c'est un film très bizarre, Le jeu de la mort, puisque c'est Bruce Lee avait commencé ce film qui devait être son film le plus personnel. Il annonçait ça comme le plus grand film d'arts martiaux de tous les temps. Et puis il est mort prématurément sans jamais terminer ce film. Et le film a été complété de façon très bizarre après sa mort pour exploiter le mythe Bruce Lee, avec divers sosies pour compléter les scènes qu'il n'avait pas tournées. Donc ça donne un film fantomatique très étrange. assez scandaleux quand même, puisque quand même on s'est emparé d'images pour en faire un peu n'importe quoi. Mais il y a cette...
Y compris des images de l'enterrement d'ailleurs.
Y compris des images d'actualité de l'enterrement, où Bruce Lee joue plus ou moins lui-même dans une intrigue aberrante. Mais il y a ce combat extraordinaire contre Kareem Abdul-Jabbar, qui est ce basketteur géant, et où on voit Bruce Lee tourner autour, essayer de conquérir ce corps immense. Et c'est un moment de cinéma vraiment stupéfiant.
Pourquoi Bruce Lee est encore aujourd'hui une référence? Parce que dans les arts martiaux, il y a eu d'autres comédiens qui se sont succédés. Il y a eu d'autres envies, d'autres cultures qui sont nées depuis sa disparition en 73.
Je pense qu'il représente quelque chose de fondateur, vraiment. C'est-à-dire que même s'il y a eu d'autres comédiens, des gens comme Jackie Chan, comme Jean-Claude Van Damme, enfin on peut en citer plein. Chuck Norris. Tous font à un moment ou un autre de leur carrière référence à Bruce Lee. Tous le croisent dans un film sous forme de fantôme, ils font référence dans des interviews. Bruce Lee est absolument incontournable pour tous ces comédiens d'arts martiaux. Je crois que Bruce Lee est le premier à avoir vraiment créé des arts martiaux qui pouvaient plaire au monde entier. C'est-à-dire que lui-même était né aux États-Unis, il y avait passé beaucoup de temps, il parlait couramment l'anglais. Il était issu d'une famille métisse aussi, ça on le dit assez peu, mais sa mère est à moitié britannique. Et donc, il avait tout de suite eu l'idée d'exporter cet art chinois au monde entier et d'inventer des chorégraphies, des scénarios, des films qui puissent plaire non seulement aux Chinois, mais à tout le monde. Et ça, il est le premier à l'avoir fait et c'est celui qui a le mieux réussi à le faire. C'est-à-dire que Bruce Lee est connu vraiment partout. Vous allez en Afrique, dans un village, vous pouvez tomber chez un coiffeur sur un poster de Bruce Lee. Ça, les autres, avant lui, ne l'avaient pas fait.
Alors, on va écouter justement la voix de Bruce Lee. Parlons des arts martiaux et on voit bien qu'il est vraiment passionné dans une très, très rare interview qu'il a accordée à une chaîne de télévision.
Martial art include all the combative arts like karate or karate, judo, Chinese kung fu or Chinese boxing, whatever you call it, all those. You see, like Aikido, Korean, I can go on and on and on. But it's a competitive form of fighting. I mean, it's not, some of them became sport, but some of them are still not.
Bruce Lee. Alors bien sûr, cette interview, vous l'avez vue, Adrien Grimbaud.
Oui, c'est une interview mythique et c'est là où il dit cette fameuse phrase « Soyez comme l'eau », qui est justement le slogan des manifestants de Hong Kong qu'on évoquait tout à l'heure.
Ouais, mais elle est très bien, c'est toute la philosophie de Bruce Lee, elle est dans votre livre, Bruce Lee, un gladiateur chinois. Alors voilà ce que dit Bruce Lee, « Fais le vide dans ton esprit, abandonne toute forme, sois sans forme telle l'eau, si tu verses l'eau dans une tasse, elle devient la tasse, si tu verses l'eau dans une bouteille, elle devient la bouteille. Si tu verses l'eau dans une théière, elle devient la théière. L'eau peut s'écouler ou éclater. Sois comme l'eau, mon ami. »
Mais ce qui est fascinant, c'est que cette phrase n'est pas de lui.
Ben oui, c'est sa philosophie, mais elle n'est pas de lui.
C'est ça, c'est écrit par Sterling Siliphant, qui était un scénariste ami de Bruce Lee, qui était un des élèves de Bruce Lee. Bruce Lee a aussi été un grand professeur d'arts martiaux et il a vu des célébrités d'Hollywood parmi ses étudiants, dont Siliphant. Et Siliphant s'est inspiré de Bruce Lee pour écrire ça. Mais bizarrement, Bruce Lee s'est approprié et c'est devenu une sorte de mantra, quasiment quelque chose de sacré, comme si Bruce Lee avait une parole divine, et c'est devenu la phrase de Bruce Lee.
Alors, est-ce que Bruce Lee a eu vraiment la place qu'il méritait à Hollywood? Ça, c'est la question se pose. Adrien Gombeau, à un certain moment, vous rapportez cette histoire, racontée d'ailleurs par Bruce Lee. On est en février 1970. Roman Polanski l'invite à Gstaad pour une gigantesque ski party le 20 février 1970. Et Bruce Lee écrit à Linda, donc à sa femme, l'immensité de sa solitude parmi le ballet des téléphériques et la vacuité de la foule mondaine. Il dit, les amis de Roman qui partagent la maison appartiennent à ce qu'on appelle la jet set. Ils sont pratiquement toujours défoncés et tous un peu débiles. Roman, quand il ne skie pas, passe son temps à courir les filles. Je pense que c'est pas par hasard que vous avez décidé de reprendre aujourd'hui cet extrait de la lettre de Bruce Lee envoyée à Linda.
Les lettres sur Polanski sont très étranges. C'est-à-dire que d'un côté, Polanski, comme on le voit d'ailleurs dans le film de Tarantino, représente cet univers de fête permanente, de jet set. Et Bruce Lee voudrait entrer dans ce monde-là.
Ouais.
mais il n'y parvient pas parce qu'il est chinois, parce qu'il est professeur d'arts martiaux et qu'il n'a pas sa place dans ce monde. Et en même temps, ce monde-là le dégoûte. Et c'est très curieux cette période américaine, c'est-à-dire qu'il s'achète une voiture de luxe qu'il ne peut pas se payer, il se prend une maison dans un quartier chic alors qu'il n'a pas tourné de film, il n'a pas les moyens de vivre comme ça. Et en même temps, cette lettre à Linda montre qu'il ne se sent pas à sa place dans un monde qu'il voudrait représenter aussi. Et finalement, il raconte hein, dans ses lettres à Linda, qui sont très très belles, comment il va dans les fêtes et où les gens pensent qu'il est un serveur. Si jamais il met une veste blanche, les gens lui tendent des coupes vides alors qu'il est invité.
Alors que c'est la star aussi.
Et alors à ce moment-là, il ne l'est pas encore. Et il aspire à devenir une star américaine. Et il n'y arrivera qu'après sa mort finalement. C'est-à-dire qu'une fois mort, une fois que ses films sortent, tout à coup il devient peut-être l'acteur le plus célèbre du monde. Il devient l'équivalent d'un James Dean, d'un John Wayne, d'un Steve McQueen. Mais c'est trop tard. Et toute sa vie, il aura voulu intégrer ce monde de Stade, tout en sachant qu'il n'y était pas à sa place du tout.
Aujourd'hui, Adrien Gombeau, quand on revoit les films de Bruce Lee, forcément, on a un sourire aux lèvres. On le voit avec une certaine distanciation, non ?
Je pense qu'il incarne toujours quelque chose de très moderne, Bruce Lee. C'est-à-dire qu'il y a dans ses films, bons ou mauvais, des choses intemporelles, qui sont la lutte des classes. C'est-à-dire que Big Boss, qui est le film qu'il a lancé, c'est quand même une histoire d'immigrés qui vont se révolter contre un patron voyou. Ça, c'est intemporel. Il y a la difficulté des races aussi. C'est-à-dire Bruce Lee, c'est quand même le Chinois qui va défaire Chuck Norris, qui est l'incarnation du mâle blanc. Tout ça fait que ces thèmes sont toujours d'actualité, même si son cinéma, par sa musique, sa mise en scène, a un peu vieilli. Je pense que le fait que des jeunes Hongkongais, aujourd'hui, reprennent ce mythe à leur compte, montre que Bruce Lee, finalement, n'est pas tout à fait mort.
Est-ce qu'on connaissait l'homme Bruce Lee ? Ou est-ce qu'il a réussi à rester juste la star des arts martiaux au cinéma ?
À Hong Kong, en tout cas, il a beaucoup souffert de la presse People, déjà à l'époque. Et puis, sa mort a révélé des aspects de sa vie qu'on ne connaissait pas. C'est-à-dire que tout le monde le prenait pour, en tout cas le grand public, le prenait pour un mari fidèle. Il est mort quand même dans le lit de sa maîtresse. On s'est aperçu qu'il prenait des drogues. Et surtout, on s'est aperçu qu'il était fragile. C'est-à-dire que Bruce Lee, invincible à l'écran, va mourir à cause d'un cachet d'aspirine. Et son autopsie va montrer que c'était un homme usé par les entraînements intensifs qu'il s'imposait, par un mode de vie où il dormait très peu. Et c'est très surprenant de voir ce personnage si fort, invincible à l'écran, mourir aussi rapidement, aussi jeune.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Et vous-même, pour terminer cet entretien, Adrien Gombeau, pourquoi vous vous êtes intéressé à Bruce Lee ? Il a marqué votre enfance, votre adolescence ?
Pas vraiment, je pense, comme tout le monde, évidemment, enfant, j'étais fasciné par ses combats. Moi, ce qui m'intéressait vraiment dans Bruce Lee, c'était ce monde transpacifique qu'on connaît mal chez nous, c'est-à-dire ces constants allers-retours entre l'Asie et la Californie. On a tendance, nous, je pense, à regarder l'Amérique du côté atlantique,
donc côté européen,
de notre côté, évidemment. Mais Bruce Lee incarne autre chose, incarne ce monde chinois qui fait des allers-retours, ce monde de San Francisco avec ses Chinatown, Los Angeles, Hollywood et Hong Kong de l'autre côté, Hawaï au milieu. Et c'est quelqu'un qui est né aux États-Unis, qui est devenu une star à Hong Kong et qui est enterré aux États-Unis et qui a passé sa vie à traverser cet océan Pacifique qui, moi, me fascine aujourd'hui. Et Bruce Lee en est l'incarnation.
Et aujourd'hui, on le fête beaucoup plus aux États-Unis qu'en Chine ou plutôt à Hong Kong que dans le reste du monde ?
Alors, à Hong Kong, il a une statue qui est vraiment au bord du port Victoria et où les gens viennent se faire prendre en photo avec lui. Et c'est très touchant de voir ces gens de la Chine qui n'ont pas vu les films de Bruce Lee à l'époque ou qui les voyaient peut-être sous le manteau, se réapproprier ce mythe de Bruce Lee. Donc il est énormément célébré à Hong Kong. Il y a néanmoins une incompréhension, c'est-à-dire que pourquoi Bruce Lee n'est-il pas enterré à Hong Kong? Pourquoi est-il enterré à Seattle? Le côté américain de Bruce Lee, je pense, est toujours mal compris à Hong Kong, mais il est surtout célébré dans le monde entier. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on oublie un peu, peut-être à cause de la qualité de ses films, mais je pense qu'il est parmi les stars, les grandes stars de l'époque, une de celles qui survit le mieux. Il n'y en a pas tant que ça. Il y a Marilyn Monroe, il y a Steve McQueen, il y a Bruce Lee, mais on peut en compter peut-être 5 ou 6, pas plus, et lui fait partie de cela.
Et du côté des autorités chinoises,
ouais. Bruce Lee.
Ouais.
Alors, les films de Bruce Lee n'étaient pas vus, évidemment,
bien sûr,
en leur temps. Hein, on était en ouais, pleine révolution culturelle, voilà. Donc Bruce Lee est devenu connu, je pense, après sa mort. Mais oui, il y a des films où il symbolise vraiment la Chine. Et je pense que c'est un personnage que tout le monde peut s'approprier. Les Hongkongais en font un symbole hongkongais. Pour les Chinois, un film comme La Fureur de Vaincre, où vraiment il va incarner l'honneur des Chinois dans un Shanghai occupé par les Japonais, où il sort pour la première fois un nunchaku à l'écran, qui est une arme japonaise qui va retourner contre les Japonais. Tout ça en fait un symbole vraiment de l'honneur chinois. Et La Fureur du Dragon, c'est aussi le restaurant chinois, donc qui est quand même l'ambassade gastronomique chinoise à l'étranger, que Bruce Lee va défendre corps et âme à Rome même. Donc je pense que pour les Chinois, c'est aussi un symbole très fort. Et je pense que c'est d'ailleurs le Chinois le plus connu au monde avec Mao Zedong.
Alors, dans votre livre, Bruce Lee, un gladiateur chinois, on apprend aussi que Françoise Sagan avait une affinité avec Bruce Lee, que James Coburn était un produit, on peut le considérer aussi comme un des produits du cinéma de Bruce Lee, de la personnalité de Bruce Lee. Il continue à inspirer encore aujourd'hui?
Oui, ben on voit bien avec Tarantino. Hein, pas
mais
seulement...
Tarantino se moque un peu de lui.
Oui, mais pas seulement dans ce film-là, dans Kill ouais. Bill par exemple, où Mathurman reprend la combinaison de Bruce Lee dans le jeu de la mort. Il y a aussi effectivement des variations comiques. Enfin, c'est quelqu'un qui est constamment présent. Par ailleurs, c'est une des superstars mortes dont la carrière continue à être gérée. Il y a des posters partout de Bruce Lee, des produits dérivés, des poupées, tout ce que vous voulez. Donc c'est quelqu'un qui est constamment dans notre présent.
D'ailleurs, qui sont les ayants droit de Bruce Lee?
Sa fille. Sa fille qui gère encore sa carrière d'une main de maître et qui publie des livres sur Bruce Lee régulièrement. Il y a même eu un parfum Bruce Lee. Alors je ne sais pas si ça avait vraiment l'odeur de Bruce Lee, mais en tout cas c'était en vente uniquement aux Émirats. Donc oui, il y a une continuité quand même dans le merchandising de Bruce Lee qui permet à Bruce Lee d'être toujours dans notre présent.
Alors que le genre qui a propulsé Bruce Lee tend à disparaître, hein, les films d'arts martiaux.
Oui, c'est vrai, il y a moins de grandes stars d'arts martiaux. D'ailleurs, si Jackie Chan est encore si connu aujourd'hui, c'est tout de même curieux à l'âge qu'il a. Je pense que Bruce Lee et cette génération-là ont connu des périodes extrêmement difficiles et étaient des gens durs, capables d'endurer un entraînement que peut-être les plus jeunes ne sont plus capables d'endurer. Ce qui explique qu'on n'a pas de jeunes stars de 20 ans des arts martiaux comme il y a pu en avoir à l'époque et qui fait que Bruce Lee est toujours regardé aujourd'hui.
Comme un esprit rebelle?
Oui, bien sûr, toujours rebelle.
Bruce Lee, un gladiateur chinois, l'ouvrage de mon invité ce matin, Adrien Gambaud, paraît chez Capricci dans la collection Stories. Merci beaucoup d'être passé ce matin.
Merci beaucoup.
Bonne journée, on se retrouve demain à la même heure.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
4 enfants, un mari, un lapin, un boulot, travailleuse et mère de famille au bord de la crise de nerfs, la vie trépidante de Brigitte Tornade, en podcast original.
Noël approche et c'est l'effervescence chez les tornades.
Quand même, c'est du chantage, ça.
Comment ça, du chantage?
Bah, de dire que tu vas téléphoner au Père Noël si Octave mange pas, c'est du chantage.
Guirlandes, sapins et dindes au marron, en tristérie festive, découvert à la banque, prise de bec et angoisse existentielle, tout y est. La vie trépidante de Brigitte Tornade, en podcast original sur franceculture.fr et toutes les plateformes dédiées.
Le concours de recrutement pour la maîtrise de Radio France est ouvert. Vous avez entre 9 et 15 ans? Vous aimez chanter? Rejoignez la maîtrise de Radio France. Inscrivez-vous avant le 31 janvier 2020 en téléchargeant le dossier sur maisondelaradio.fr, rubrique recrutement des formations musicales.
Vous écoutez France Culture, il est 6h30, l'heure du journal présenté par Margot Delpierre. Est-ce une bonne idée de continuer la grève contre la réforme des retraites pendant les fêtes? Certains syndicats la maintiennent à la SNCF et la RATP. Pour les uns, c'est un excellent coup de pression. Pour les autres, c'est risquer de perdre le soutien des Français. Une stratégie osée, en tout cas, nous dira un spécialiste. Vladimir Poutine est attendu aujourd'hui à l'inauguration du pont de Crimée pour sa partie ferroviaire. Pont qui relie la Crimée à la Russie continentale. Nous ferons le point avec notre correspondant à Moscou avant d'aller en Italie chez un producteur de Prosecco, boisson star de ces fêtes de fin d'année. Les ventes explosent, mais le champagne ne craint toujours pas la concurrence. Le week-end a été difficile pour certains voyageurs qui tentaient de partir en vacances. La grève contre la réforme des retraites continue dans les transports malgré les appels à la trêve. La SNCF prévoit de faire circuler 40% des TGV aujourd'hui, 40% aussi des TER. À Paris, 6 lignes de métro sont fermées selon la RATP. Continuer le mouvement pendant les fêtes, c'est une stratégie potentiellement risquée, estime le politologue Pascal Perrineau, ancien directeur du CEVIPOF, le Centre de recherche politique de Sciences Po.
Ce mouvement bénéficie d'un soutien et d'une sympathie dans l'opinion à hauteur, ça varie selon les enquêtes, d'environ 60%. Et tant que derrière le mouvement social, il y a ce soutien d'opinion, il est difficile pour le gouvernement de s'en sortir facilement. Mais tout ça peut bouger, surtout que on le voit, la tendance est plutôt à l'éternisation de ce mouvement social. La période de Noël peut être un point de bascule, on le verra dans les jours qui viennent, parce que les Français, quelle que soit d'ailleurs leur position, positive, négative ou indifférente par rapport au mouvement social, sont très attachés à la mobilité au moment de Noël pour aller voir ses parents, accueillir ses enfants. Donc c'est peut-être l'occasion, en effet, d'une inflexion dans l'opinion et on le verra une fois que les Français seront revenus de la fête de Noël et de la fête du Nouvel An. On verra dans les premiers jours de janvier si les 60% de soutien et de sympathie qui font d'une certaine manière la force du mouvement vont fondre au-dessous de la barre de 50%.
Le politologue Pascal Perrineau, le gouvernement doit détailler aujourd'hui un programme et le calendrier des concertations sur la réforme des retraites. Les discussions reprendront en janvier. Sont également mobilisés contre ce projet les salariés des raffineries. La branche chimie de la CGT a décidé hier l'arrêt total des installations de la raffinerie de l'Avera près de Martigues dans les Bouches-du-Rhône. Des assemblées générales devraient avoir lieu dans plusieurs raffineries aujourd'hui. Les 8 que compte la France métropolitaines sont affectées par des blocages depuis le début du mouvement, le 5 décembre dernier. Je crois qu'il est bon de savoir faire trêve, a déclaré Emmanuel Macron pendant sa visite samedi en Côte d'Ivoire. Au même moment, on a appris que le chef de l'État renonçait à sa future retraite d'ancien président de la République qui devait lui être attribuée en fin de mandat et qui s'élève à un peu plus de 6 000 € bruts par mois. L'opposition y voit une mesure indécente, démagogique. Cette annonce ne fait que brouiller les pistes, estime le spécialiste en communication politique Jean-Christophe Gallien.
On a un peu de mal à saisir effectivement la pertinence. C'est pas parce que le président de la République renonce à un élément de sa retraite. On hésite un petit peu entre l'idée que c'est quelque chose qui apparaît comme un élément dans une période sanctuaire, Noël, et la période dans laquelle on a pénétré ce week-end. C'est une période qui effectivement est troublée par cette activité à la fois de la grève et autour de la réforme, et dont normalement, j'allais presque dire que le sanctuaire républicain normalement devrait être intouché. Donc, ce qui veut dire que on comprend pas très bien ce que ce gros caillou finalement. dans une mare complexe aujourd'hui, une mare médiatique, une mare politique, une mare syndicale. On est dans un contexte politique troublé et social troublé là aussi, et je ne vois pas de mon point de vue ce que ça peut venir apporter comme élément ni d'éclaircissement, ni d'intérêt pour celles et ceux qui vont voir leur système être modifié. On ne saisit pas très bien ce message qui apparaît comme quelque chose de très artificiel. Je ne vois pas l'intérêt de ce que ça peut apporter au débat, ni même apporter au cœur, ou en tout cas au sentiment, à l'affection que certains peuvent avoir, même pour lui, réalisé depuis un pays qui est évidemment un pays ami. La Côte d'Ivoire, c'est un pays avec lequel la France a des relations très fortes. Ça vient troubler finalement une partie du message, à la fois diplomatique qu'il a engagé en Côte d'Ivoire, et puis aussi de soutien aux forces armées françaises qui sont présentes sur le terrain. Donc je suis très surpris.
Jean-Christophe Gallien, propos recueillis par Adrien Palluet. 6h34, la suite du journal sur France Culture. Un an et demi après l'inauguration de sa portion routière, Vladimir Poutine va inaugurer aujourd'hui la partie ferroviaire du pont de Crimée. Il relie la Crimée à la Russie continentale. Il faudra toutefois plus de 30 heures pour parcourir la distance séparant Moscou de la péninsule. Jean-Didier Revoin.
En mai 2018, pour inaugurer le tronçon routier du pont de Crimée, Vladimir Poutine avait lui-même pris le volant d'un camion. Il y a donc fort à parier qu'il sera aujourd'hui dans la cabine de pilotage ou même aux commandes du train qui inaugurera la section ferroviaire de ce même pont. Dès aujourd'hui, fret et passagers pourront gagner directement la péninsule en franchissant le détroit de Kerch sans pour autant devoir embarquer sur un bateau. C'est la fin d'un chantier entamé en février 2016 qui aura coûté un peu plus de 3 milliards d'euros pour désenclaver la péninsule rattachée à la Russie en 2014. Fin 2014, en effet, les autorités ukrainiennes avaient fermé à tout trafic les deux voies ferroviaires reliant l'Ukraine à la Crimée, contraignant la Russie à se lancer dans la construction d'un pont maritime de 19 km, le plus long d'Europe. Dès aujourd'hui et chaque année, un total de 14 millions de passagers et de 13 millions de tonnes de marchandises pourront emprunter cet itinéraire qui place Moscou à 33 heures de la péninsule pour un trajet de près de 2000 km. Les liaisons seront quotidiennes au départ de la capitale et de Saint-Pétersbourg dans des trains à deux étages. À terme, les autorités souhaitent faire en sorte qu'en termes de prix, le train puisse concurrencer l'avion. Depuis le 8 novembre, date de leur mise en vente, plus de 12 000 billets sont déjà partis avec un prix de départ inférieur à 50 euros au départ de Moscou comme de Saint-Pétersbourg.
La correspondance de Jean-Didier Revoin. L'information nous parvient ce matin. Un militaire américain a été tué en Afghanistan. Les talibans revendiquent l'attaque. Une annonce qui intervient au moment où Washington et les talibans tentent de trouver un accord sur un retrait des forces américaines. Une révélation de plus dans l'affaire ukrainienne. Donald Trump, on le rappelle, est soupçonné d'avoir fait pression sur le président Volodymyr Zelensky pour obtenir des informations sur son rival, le démocrate et ancien vice-président Joe Biden. D'après un courrier électronique dévoilé hier par un groupe de journalistes d'investigation, un responsable du budget américain a demandé au Pentagone d'attendre avant de verser une aide à l'armée ukrainienne, une heure et demie seulement après l'appel entre Trump et Zelensky. Le président des États-Unis est visé par une procédure de destitution. Il a été mis en accusation la semaine dernière pour abus de pouvoir et entrave à la bonne marche du Congrès. Le Premier ministre australien, déjà critiqué pour être parti en vacances à Hawaï alors que les pompiers luttent contre des feux de forêt, Scott Morrison est maintenant accusé de ne pas en faire assez pour le climat. Il a répondu ce matin qu'il serait irresponsable, selon lui, de tourner le dos à l'industrie du charbon. « Nous n'allons pas, je cite, nous engager dans des objectifs irresponsables, destructeurs d'emplois et nuisibles pour l'économie qui sont demandés. » À l'heure des dernières courses, avant le repas du réveillon, vous mettrez peut-être quelques bulles dans votre panier, du champagne ou du prosecco italien. Pourquoi pas, les ventes de prosecco atteignent des sommets et même un record cette année à l'export. En dehors de l'Italie, la Grande-Bretagne, les États-Unis et l'Allemagne s'arrachent cette boisson. La France est quatrième, mais c'est le pays où les exportations ont le plus augmenté. Bruce de Galzin s'est rendu chez un producteur.
Giorgio Pollegato produit du Prosecco dans les collines de Vénétie. C'est une histoire de famille depuis trois générations, mais c'est Giorgio qui, il y a 30 ans, lance la maison Astoria. 70 employés aujourd'hui, 40 hectares et de plus en plus d'exportations. D'abord en Angleterre, En France aussi, plus 30% cette année. Mais pour Giorgio Polegato, il n'y a pas vraiment de concurrence avec le champagne.
Le champagne.
Pour faire du champagne par excellence, on utilise la méthode champenoise. C'est totalement différent pour le Prosecco, dont la fermentation se fait dans de grandes cuves en acier et pas en bouteille. C'est un produit que l'on boit jeune, frais, avec plus de sucre que le champagne. Et c'est un peu la chance du Prosecco parce qu'il plaît à tout le monde, aux femmes en particulier. Sa consommation a explosé de manière incroyable. C'était impensable il y a quelques années.
Son prix est aussi un atout, 5 à 7 euros. Peut-être également la publicité d'un certain cocktail, estime Domenico Bosco, spécialiste des vins à Col di Reti, la plus grande fédération agricole.
Une des raisons du succès, c'est que le Prosecco se boit aussi à l'apéritif et que beaucoup de nouveaux consommateurs sont arrivés grâce à la mode du spritz.
20 millions de bouteilles de Prosecco devraient se vendre en France cette année, et c'est encore loin des 145 millions de bouteilles de champagne.
Le reportage de Bruce de Galzin. La Savoie est toujours en vigilance orange avalanche ce matin. Du orange aussi pour le Finistère, l'Ille-et-Vilaine et la Charente-Maritime, département surveillé par Météo France pour des risques d'inondation. Le temps aujourd'hui est encore nuageux avec des averses dans l'ouest et sur le relief de la Corse. Du soleil de Marseille à Nice, vous n'aurez pas plus de 10 degrés à Lille, 11 à Paris, 12 à Lyon, 14 à Bordeaux et 17 degrés à Nice. Vous êtes toujours sur France Culture, il est 6h40, l'heure de retrouver Antoine Dulster et les enjeux internationaux. Bonjour.
Bonjour. Alors nous parlons aujourd'hui de l'Amérique de Donald Trump et plus exactement de la crédibilité diplomatique des États-Unis à l'épreuve du Trumpisme. C'est le premier volet d'une série d'émissions consacrée à un bilan international de cette année 2019 qui s'achève avec cette question donc que nous posons ce matin. L'Amérique de Donald Trump est-elle encore un partenaire diplomatique crédible? 3 ans après l'arrivée au pouvoir du milliardaire à la Maison-Blanche, la chose semble ne plus aller de soi. Pour preuve, un échange capté à Londres lors du dernier sommet de l'OTAN. On y voit Justin Trudeau et Boris Johnson, Premier ministre du Canada et du Royaume-Uni, échanger avec Emmanuel Macron quelques remarques moqueuses en apparence sur le président américain. La séquence a été caricaturée dans une grande émission de télévision aux États-Unis. Elle est même utilisée dans des spots du Parti démocrate sur le registre d'un pays, l'Amérique, devenu inaudible et ridiculisé par ses alliés. Il est vrai que la voix de l'Amérique est de plus en plus difficile à décrypter. Washington s'est retiré cette année de l'accord de Paris sur le climat. Le pays bloque désormais le fonctionnement de l'OMC à Genève. Son retrait partiel de Syrie lui a aussi valu des critiques unanimes. Le tout sur fond de crise politique ouverte aux États-Unis, puisque Donald Trump est depuis le 18 décembre le troisième président américain à subir une procédure de destitution. Alors comment comprendre dans ces conditions la diplomatie américaine sous la direction de Donald Trump? C'est ce que nous allons essayer de faire avec vous, Laurence Nardon. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous dirigez, Laurence Nardon, le programme de recherche sur les États-Unis de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, et vous avez publié l'Amérique de Trump en 100 questions chez Talendier en 2018. Alors la scène du sommet de l'OTAN dont je parlais il y a un instant, est-elle représentative de ce qu'est devenu la crédibilité diplomatique de Donald Trump dans le monde aujourd'hui, c'est-à-dire un leader avec qui on entretient de bonnes relations, mais dont on se moque un petit peu pour ses incohérences?
Oui, cette séquence est représentative d'une partie de ce qu'est la diplomatie de Trump, c'est-à-dire une diplomatie imprévisible, souvent agressive et surtout qui rompt avec les normes de la diplomatie. Hein. C'est quelqu'un qui fonctionne pas comme les grands leaders du monde jusqu'aujourd'hui. Mais elle la résume pas, hein, parce que je pense qu'au contraire, depuis le début, depuis ce que Trump avait annoncé qu'il ferait lorsqu'il était candidat, s'il était élu, je pense au contraire qu'on peut lire une très très grande cohérence de la politique étrangère de Trump jusqu'à aujourd'hui et sans doute jusqu'à ce qu'il quitte la Maison Blanche.
Alors je donnais dans le désordre, hein, Laurence Nardon, quelques grands dossiers dans lesquels la ligne américaine a été difficile à déchiffrer oui. Ces 3 dernières années. Alors on pourrait commencer par le retrait militaire partiel des Américains du théâtre syrien, qui est l'un des événements marquants de cette année 2019 sur laquelle on revient ce matin avec vous. Rappel des faits pour commencer. Alors début octobre, le président américain annonce un retrait des forces spéciales américaines basées en Syrie, ce qui est interprété comme un blanc-seing donné à Ankara, la Turquie, donc pour relancer sa guerre contre les Kurdes en Syrie, des Kurdes qui avaient été pourtant un rouage essentiel dans la lutte contre l'État islamique. Mais rapidement, le président se contredit, il annonce seulement un redéploiement de soldats. Alors, dans cet épisode-là, il y a beaucoup de choses à dire, évidemment, Laurence Nardon, mais déjà, la communication de Donald Trump a fait jaser. Il a employé un langage fort peu diplomatique dans ses échanges avec le président turc, Erdogan. Je vais citer Donald Trump. « Ne jouez pas au dur, ne faites pas l'idiot. » C'était ce qu'il lui disait le 9 octobre. Quitte à donner le sentiment d'une grande improvisation et d'une vision de la diplomatie qui serait finalement basée sur des rapports de force personnels. Est-ce que c'est ça qui s'est illustré dans cet épisode ?
Oui, mais ça c'est une affaire de forme à nouveau. Hein. Trump est, c'est vrai, il aime les hommes forts, il a une sorte de fascination pour les échanges un peu virils comme ça. Et cet épisode de communication avec le président turc, on l'a vu aussi avec Kim Jong-il, rappelez-vous, quand il l'avait appelé Minuteman. On l'a vu aussi avec Macron, hein. Ils ont eu des relations parfois très amicales en apparence, et puis après avec des noms d'oiseaux derrière. Trudeau aussi, il l'a appelé Two-Face, il l'a appelé sournois et menteur après
suite au sommet de l'OTAN, justement.
Oui, avec lequel vous ouvriez cette séquence. Mais en fait, ce qu'on voit sur le fond, c'est donc cette politique cohérente dont je parlais tout à l'heure, et qui est que finalement, Trump conduit une politique qu'on appelle jacksonienne, c'est-à-dire une politique nationaliste qui ne s'intéresse qu'à l'intérêt des États-Unis. Il y a des précédents dans l'histoire américaine, mais enfin, c'est vrai que Trump est un exemple flamboyant de cette politique. Il s'agit de défendre l'Amérique de manière égoïste. C'est une politique nationaliste, unilatéraliste, c'est-à-dire qu'on s'occupe pas des autres, pas de diplomatie, on ne reconnaît pas le rôle de l'ONU et des institutions internationales. Et finalement, tout s'ordonne autour de ça. Il y a aussi une grande réticence à intervenir. Pas de rôle moral pour l'Amérique. Si vous voulez, on peut lire ça dans une séquence un peu plus longue, en allant de Bush à Obama et à Trump aujourd'hui. On voit bien qu'après la guerre d'Irak déclenchée par Bush au lendemain du 11 septembre, il y a eu une fatigue de l'Empire. C'est-à-dire que les États-Unis se sont vus fatigués de leur rôle de gendarme du monde. Et ça, on le voit très bien sous Obama, qui était déjà réticent à intervenir. Souvenez-vous de la guerre en Libye, où les États-Unis, sous Obama,
théorisé d'ailleurs son leadership en disant qu'il préférait désormais faire du lead from behind, donc en français, diriger depuis l'arrière. C'est ce qui avait été c'est ce qui avait caractérisé sa position en Libye, effectivement.
Absolument. Sauf que Obama restait très respectueux et très engagé dans les institutions internationales. C'est-à-dire qu'il conduisait en Libye depuis l'arrière, comme vous dites, mais en même temps, c'était une coalition, ça passait par l'ONU, etc. Trump veut aussi se retirer, il veut pas que les États-Unis s'impliquent trop. Mais il ne reconnaît pas en même temps le multilatéralisme. Il veut faire les choses tout seul. Il y a quand même une volonté d'exprimer sa force militaire, même si on ne l'emploie pas. Et donc, ça fait une différence, il me semble, très importante sur le rôle moral de l'Amérique dans le monde. C'est-à-dire que sous Trump, l'Amérique n'a plus à donner l'exemple et n'a plus à essayer de porter la démocratie dans le monde. Entre nous, d'ailleurs, sur ce point, porter la démocratie dans le monde, c'était le rôle que les néoconservateurs sous Bush avaient mis en avant lorsqu'ils étaient partis en Afghanistan et en Irak. C'était pour venger les États-Unis au lendemain du 11 septembre, mais c'était aussi pour tenter d'y installer une démocratie à l'occidental, entre guillemets, qui était le projet des néoconservateurs.
Est-ce qu'il avait été qualifié, Laurence Nardon, de wilsonisme beauté, hein, je crois que c'est une expression qui était employée à cette époque-là pour mettre ses actes dans la continuité du président Wilson, mais avec donc un principe de réalisme, me semble-t-il, et donc cette idée d'imposer, comme vous le dites, des changements de régime par la force. Alors, on vous entend donc, Laurence Nardon, sur la continuité de Trump avec une certaine tradition américaine. On comprend aussi qu'il s'agit essentiellement de questions de forme, mais concernant sa vision, beaucoup de gens aux États-Unis, beaucoup d'experts, un certain nombre de généraux, des diplomates, critiquent Trump pour son manque de vision. Et c'est un point sur lequel j'aimerais vraiment vous entendre. Sait-il où il va en parler tout à l'heure de la Turquie ? A-t-il une vision claire de ce que doit devenir l'OTAN, de ce que doit devenir sa relation privilégiée avec ses alliés les plus proches ? Il a critiqué sévèrement Macron qui parlait d'OTAN en état de mort cérébrale. Mais Trump a-t-il lui-même une vision de l'alliance, de ce que doit être l'OTAN ?
Oui, moi je pense qu'il a une vision. Alors effectivement, c'est pas un intellectuel qui va s'exprimer de manière extrêmement savante et argumentée. Hein. Il est plus dans l'émotion et ses déclarations sont souvent un peu comme ça crues, mais je pense qu'il a une vision qui se rattache à cette politique jacksonienne dont on parlait pour Trump.
Alors juste pour nos auditeurs, rappeler qui était le président Jackson, c'était donc un président du 19e siècle qui avait donc comme principe, mais vous l'avez un peu rappelé tout à l'heure, l'idée d'un isolationnisme vers l'extérieur et d'un populisme vers l'intérieur. Et ça qualifie à peu près ce qu'est le style aujourd'hui de Donald Trump, c'est en tout cas ainsi que le définissent les éditorialistes qu'il compare à ce président.
Oui, 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 c'est 1829-1837, ce président. Bon, bref. Mais, donc, la vision sur laquelle s'appuie cette politique donc jacksonienne de Trump, c'est une vision extrêmement sombre du monde, une vision du monde comme à l'état de nature, pour reparler de Hobbes, un monde dans lequel, en fait, il y a que soit des perdants, soit des gagnants, et que chaque acteur, chaque nation, est absolument seul pour défendre son propre intérêt. C'est un monde dans lequel tout le monde est agressif les uns avec les autres. Alors, certains pensent au monde des agents immobiliers de New York, dans lequel Trump a fait sa formation professionnelle et qu'il transférerait maintenant à sa vision du monde international. Et du coup, c'est un monde dans lequel les alliances n'ont pas de sens. On fait chacun pour soi. Et je pense que c'est à la base de la vision que Trump a de l'OTAN. Pour lui, les alliés, ça fonctionne pas vraiment. Il y a pas vraiment de sens à avoir des alliés dans le monde. Et du coup, il a une vision depuis le début extrêmement méprisante et peu optimiste de l'OTAN. D'où ses déclarations sur l'OTAN depuis le début, le fait que les autres doivent payer parce que sinon les Américains n'ont rien à faire là-dedans, et ses déclarations sur la Turquie. Qu'on a vu au sommet de l'OTAN à Londres la semaine dernière.
Un mot, Laurence Tardon, sur la politique américaine à l'OMC. Ça va rejoindre votre propos sur Trump et l'OTAN, Trump et son style diplomatique global. Donc l'OMC est bloquée en ce moment puisque l'un de ses principaux organes, c'est-à-dire la cour d'appel de l'organe de règlement des différends, est bloquée en raison d'un veto américain pour le renouvellement de plusieurs juges qui rend cet organe de facto inopérante. Est-ce que cette menace qui est mise à exécution par Donald Trump, qui était une vieille menace de bloquer l'OMC, parce que l'OMC rendrait des décisions qui ne seraient pas favorables aux États-Unis, notamment aussi comme un message adressé à la Chine, la Chine qui serait dans une position agressive commercialement, et donc cette OMC qui serait pas assez favorable aux Américains. Est-ce que là encore, on a une sorte de condensé presque chimiquement pur de ce qu'est le trumpisme et sa vision du multilatéralisme, cette manière de bloquer les institutions?
Oui, on a vu ça. Enfin, le retrait par l'administration Trump du pays États-Unis de certains traités internationaux ou organisations, donc l'OMC, il y a l'accord de Paris sur le climat, tout cela montre cet égoïsme nationaliste des États-Unis qui n'hésite pas à ruer dans les brancards et à sortir de choses qui semblaient vraiment bien établies et dans lesquelles les États-Unis avaient été des membres fondateurs d'ailleurs. Mais sur l'OMC, vous avez raison d'en parler parce que par ailleurs, ça montre aussi à quel point les États-Unis sont moteurs aujourd'hui, les États-Unis de Trump bien sûr, sont moteurs aujourd'hui dans la fin d'un cycle de mondialisation qu'on connaît depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et plus encore depuis les années 80, une mondialisation économique qui était vue comme très positive, il y allait avoir que des gagnants à la mondialisation. Évidemment, nous en France, on a toujours été un peu plus sceptiques, mais enfin, dans le monde entier, c'était cette idée. Et aujourd'hui, Trump tape du poing sur la table en disant que les classes moyennes américaines ont souffert de cette mondialisation économique par le transfert des emplois dans les pays à main-d'œuvre moins onéreuse, donc la Chine historiquement. Et il faut le reconnaître, l'un des premiers à avoir de manière très brutale et très bruyante, montrait à quel point la Chine ne jouait pas franc jeu dans cette mondialisation économique. Mais aller jusqu'à bloquer l'OMC, c'est un remède qui semble pire que le mal, d'une certaine manière.
Alors, on parle toujours avec vous de la diplomatie de Donald Trump. Laurence Nardon, je rappelle que vous dirigez le programme sur les États-Unis à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Impossible de parler de cette année diplomatique de Donald Trump sans évoquer l'affaire ukrainienne qui vaut au président des États-Unis d'être le troisième président de l'histoire de ce pays à subir l'humiliante procédure d'impeachment, donc de destitution, même si cette procédure a de très faibles chances d'aboutir en raison de la majorité républicaine au Sénat. Quand même, est-ce que cette affaire ne peut pas avoir des conséquences sur ce que sera la diplomatie américaine ? On sait qu'il y a déjà une diplomatie parallèle, notamment avec Rudy Giuliani, en direction de ce pays, l'Ukraine. Est-ce que ça peut avoir des incidences sur la signature diplomatique des États-Unis, cette affaire ukrainienne, pour vous, Laurence Nardon ?
Oui, je pense que l'affaire ukrainienne, bon, évidemment, prend son origine dans les échanges du fils Biden en Ukraine pendant l'administration Obama, c'est certain, mais je crois qu'elle n'aura qu'elle va avoir des conséquences principalement en politique intérieure américaine, hein. Et d'ailleurs, je pense que, comme vous le disiez, ça n'aura pas d'effet. Le président est mis en accusation par la Chambre, mais ne sera pas condamné par le Sénat, vous l'avez dit. Mais je pense que ça n'aura des conséquences qu'en politique intérieure, avec un effet probable de renforcement du président Trump dans la campagne électorale. Parce qu'il y a cette affaire d'impeachment, mais il y a aussi la campagne électorale pour les élections présidentielles de novembre prochain, qui est bas son plein aux États-Unis. Et je crains que cette affaire d'impeachment ne trouble les candidats démocrates dans leur campagne, qui est déjà bien difficile, ils sont nombreux, et ne renforce le président Trump auprès de sa base, puisque Trump, qui est un communicant vraiment de génie, excelle à se peindre en martyr. Et donc, cette destitution, cet impeachment, va l'aider à dire, voyez, tous ces libéraux, enfin, tous ces progressistes, tous ces gauchistes sont contre moi, je suis, moi qui défends le peuple, moi qui défends le vrai peuple, je suis attaqué par ceux qui n'ont pas intérêt à ce que le peuple s'en sorte. Et donc, je pense que ça va l'avantager. En termes de politique internationale, est-ce que ça va avoir des conséquences? Je ne crois pas. Trump est déjà connu pour ce qu'il est à l'étranger, et du coup cet impeachment ne fait que confirmer ce que les dirigeants qu'on a vus se moquer de lui à l'OTAN pensent. Donc je ne crois pas que ça aura beaucoup d'incidence. Le président sera peut-être plus imprévisible, ça c'est sûr, et plus agressif, mais je ne crois pas que ça changera fondamentalement.
Alors, je voulais vous poser une toute dernière question, Laurence Nardon, très rapidement. On voit que les critiques aujourd'hui viennent même de son camp. Je pense notamment à James Mattis, qui est son ancien secrétaire à la Défense. Est-ce que, justement, ce camp conservateur peut se retourner contre Donald Trump en raison de la politique étrangère ?
La politique étrangère, en effet, est l'un des points sur lesquels les républicains, et notamment ceux du Sénat, ont pu s'élever contre leur président, contre lequel, le reste du temps, ils sont d'une lâcheté et d'une obéissance totale.
D'accord.
Ce serait peut-être sur ce plan-là qu'ils pourraient se rebiffer.
Eh bien, écoutez, on suivra en tout cas ce dossier sur l'antenne de France Culture. Merci beaucoup, Laurence Nardon. Je rappelle que vous êtes responsable du programme États-Unis de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales.
Merci.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente la revue Tintin, c'est l'aventure, en vente actuellement en librairie et chez les marchands de journaux. Dans ce nouveau numéro, découvrez un grand reportage sur la montagne chère à Hergé et sur la spiritualité. Un entretien avec l'explorateur Jean-Louis Etienne et un dépli BD inédit de l'auteur Jacques Ferrandez. Partez à l'aventure avec Tintin et Géo, un partenariat France Culture.
Il est 6h57 sur France Culture, l'heure de retrouver Hervé Gardette. Bonjour Hervé.
Bonjour Antoine Ulcer.
Vous revenez sur la façon dont les chaînes d'infos essaient de faire preuve d'originalité dans le traitement de la réforme des retraites dans votre billet d'humeur.
Et mettons-nous un instant, Antoine, à la place des chaînes d'information en cette période d'étirement du conflit autour de la réforme des retraites. Il faut une sacrée inventivité pour renouveler les sujets au quotidien. Alors jusqu'à ces derniers jours, j'avais décerné ma palme toute personnelle à ma consœur de France Info, Justine Leclerc, partie de Paris à bicyclette le 5 décembre dernier pour rejoindre quelques heures plus tard le lieu-dit La Retraite en Ardèche, mission accompli, idée géniale. Qu'elle me pardonne, je suis contraint de la destituer au profit de BFM Paris. Sur cette chaîne, il y a une émission consacrée aux réseaux sociaux. Au sommaire de celle de jeudi dernier, cette chronique, les dates Tinder en danger. Alors, petite explication de texte. Une date, c'est un rendez-vous. Tinder, c'est une application qui permet de draguer en ligne. Dans un périmètre défini par vos soins, vous sélectionnez ou pas d'autres profils. Et lorsque ça match, vous convenez d'une date pour vous rencontrer, voire plus si affinité. Sauf qu'avec le mouvement social, tout devient plus compliqué. Les dates sont en danger. Comme en témoigne ce message posté sur Twitter. Avec cette grève, j'ai réduit mon rayon de recherche sur Tinder à 5 km. Du coup, ça réduit aussi mon niveau d'exigence. Eh bien, croyez-le ou non, mais sur BFM Paris, ils ont réussi à tenir 3 minutes avec ce seul tweet. Il est vrai qu'à l'heure du journalisme contemporain, c'est largement suffisant pour remplir l'antenne. Alors, osons quelques suggestions pour enrichir le stock. Une interview de l'ancien présentateur d'Apostrophe pour évoquer l'âge pivot. Celle d'un champion de Scrabble pour commenter la nomination du nouveau secrétaire d'État aux retraites, Pietraszewski. Mot compte triple, ou encore soyons fous, un débat avec des éditorialistes qui ne connaissent rien au sujet. Alors j'en conviens, c'est assez idiot, mais il faut s'attendre à tout, et pas seulement sur les chaînes d'info. Je me souviens d'un rédacteur en chef qui m'avait demandé, le jour de la mort du commandant Cousteau, d'aller faire un reportage dans un magasin de bonnets, rapport au bonnet rouge du commandant. C'est dire si je compatis.
7h-9h, les matins de France Culture, Hervé Gardette.
Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les matins de France Culture. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Guillaume Erner est en vacances, il sera de retour le 2 janvier prochain. Ce matin, en cette première semaine de vacances de Noël, nous allons parler de travail. Que dit la mobilisation contre les retraites, de notre rapport au travail? Quelles sont ces nouvelles conditions? Par ailleurs, en quoi le jugement dans le procès France Télécom remet-il en cause une certaine façon de l'exercer dans les entreprises? Nous en parlerons avec la sociologue Danielle Linhart à partir de 8h-20. Elle sera rejointe à 8h20 par le romancier Vincent Message. Il a notamment suivi une partie du procès de France Télécom. France Culture, il est pile 7h.